bon Dieu. Michael Brown à bâton rouge en Louisiane et furax. Il sue à grosses gouttes. Le directeur de la FEMA, l'agence fédérale américaine en charge des situations d'urgence, est sur les rangs depuis des jours. Et pour cause. Dans le golfe du Mexique, il doit gérer l'arrivée d'un monstre. La tempête tropicale Katrina, au départ bien modeste, a considérablement grossi. C'est dorénavant un ouragan qui, depuis 7 heures ce matin, vient d'intégrer la catégorie 5, la plus importante. Ces vents terribles, destructeurs, arrivent. On en perçoit dans les cimes et le long des toits les prémices. L'horreur est à 400 km. Chaque seconde compte. Le problème de Brown, c'est que les autorités de la Nouvelle-Orléans ne sont pas au niveau. Des heures qu'ils auraient dû mettre en place un plan d'évacuation générale obligatoire. Et c'est pas fait. La tension monte, puis explose en un instant. Tu sais quoi? Appelle les équipes télé. Je veux passer en direct, maintenant. Ses collaborateurs tendent à le raisonner. En vain. Quelques minutes plus tard, le visage de Michael Brown est à l'antenne. Sa prise de parole va plonger toute une région dans l'angoisse. Nous sommes le 28 août 2005. Il est aux alentours de 8h15 et c'est l'heure H de mon histoire. Caméraman qui mâche nonchalamment un chewing-gum attend le go du directeur de la FEMA. Ce dernier se lance. Brown a les traits tirés. Il ressemble à un mort-vivant dans sa chemise à carreaux rouges. Pourtant, on lui apporte des nouvelles rassurantes. Mais décidément, le directeur de la FEMA se montre intransigeant. Et il n'a pas tort. Les autorités ont fait preuve de laxisme dans la gestion de toute cette affaire. C'est le moins que l'on puisse dire. Mais s'insurger ne rime plus à rien. Il faut limiter la casse. Michael Brown en a conscience. Ce qu'il espère, c'est que son intervention à la télé va faire parler. Depuis la veille, les autorités de tout l'État sont engorgées. Mais de nombreux habitants ont décidé de braver les éléments, persuadés d'avoir affaire à une tempête comme les autres. Grave erreur. La nation tout entière retient son souffle. Katrina approche. Sa force dévastatrice se fait déjà sentir. C'est le cas le long des côtes de Louisiane, de Floride ou du Mississippi. Non. Elle n'a rien d'une tempête comme les autres. C'est un ouragan. À l'autre bout du pays, à Crawford, au Texas, un homme est tout aussi inquiet. Devant sa télévision, il vient d'assister à l'avertissement du directeur de la FEMA. Cet homme, en vacances dans son ranch, est loin d'être un citoyen lambda. Il s'appelle George W. Bush. Il est président des États-Unis. Il est 9h25 et il décroche son téléphone. La gouverneure Blanco, exténuée par la lutte menée jusque-là, décroche. La marche à suivre est claire. Le président ordonne qu'une évacuation généralisée et obligatoire soit appliquée. Dès maintenant. La gouverneure a la responsabilité de mettre tout le monde à l'abri. C'est très loin d'être une mission réussie à l'heure qu'il est. Lorsqu'il raccroche, Bush demande à ses conseillers un point de situation. Ils sont tous formels. C'est une terrible catastrophe qui s'annonce. Dans la foulée de l'appel, le maire de la ville et la gouverneure décident de tenir un point presse on ne peut plus attendu. Très tiré, fatigue extrême. Dissimulée derrière un tailleur rose fluo, Kathleen Blanco prononce des mots qui résonnent comme une véritable déflagration. Le président m'a demandé de m'assurer qu'il y ait une évacuation obligatoire de la Nouvelle-Orléans. Le maire, fébrile, lui emboîte le pas. Il faut que tout le monde parte. La ville de la Nouvelle-Orléans n'a jamais été frappée par un ouragan de cette puissance. Les dés sont jetés. Il reste à celles et ceux bloqués dans la ville de Cajun et de la musique blues moins de 20 heures pour se tirer l'affaire. Juillet 2004, Baton Rouge, Louisiane. Le Centre des opérations d'urgence de l'État est un organisme gouvernemental chargé d'anticiper tout type de situation catastrophe. Son personnel est à pied d'œuvre et se trouve en pleine simulation. Depuis ce matin, le grand méchant loup porte le doux nom de Pam. Mais ne vous laissez pas surprendre. Il ne se cache rien d'amical derrière ce patronyme. Bien au contraire. Pam est un ouragan. Heureusement factice. Derrière les écrans d'ordinateur, la tempête simulée se déverse sur la Louisiane et plus particulièrement la Nouvelle-Orléans. Différents scénarios sont testés, mais à chaque fois, le résultat reste inchangé. Un ouragan puissant submergerait la ville, qui se retrouverait en un claquement de doigts sous les eaux. Les experts voient les données défiler devant eux, hagards, des dizaines de milliers de morts, près de 400 000 blessés, des destructions matérielles à n'en plus finir. L'une des villes les plus célèbres du pays serait en grand danger, coupée du reste du monde, avec sur les bras plus de 500 000 sans-abri potentiels et 1 million de réfugiés. Fou ! Eh ben heureusement que c'est une simulation, hein, Jeff ? Peut-être. Mais Jeff Smith, ça le fait pas rien du tout. Responsable des situations de crise, il hallucine devant la liste des conséquences qu'un tel phénomène météo aurait sur l'État. Qu'un ouragan puisse entraîner un si grand chaos, c'est pas normal. Il faut renforcer les systèmes de défense le long des côtes et agir vite, très vite. Le GOSEP, le Bureau du Gouverneur pour la Sécurité Intérieure et la Préparation aux Situations d'Urgence. Un nom bien long qui cache des professionnels chargés de veiller à la bonne sécurité en Louisiane, placés sous la responsabilité de la gouverneure. Son grand Manitou est un militaire, le Major Général Landrenault. Ce gaillard est loin d'être un bleu. Il est aux commandes de l'instance depuis 1997. Les rapports alarmistes des experts du centre d'opération d'urgence, il les connaît, et a appris à ne les regarder que d'un œil. Ses services ne vont donc réagir que mollement à l'inquiétude exprimée par la simulation de Pam. D'ailleurs, il en sera de même des services de l'État ou du gouvernement fédéral. Personne n'ose le moindre sourcil. Assez dommage. D'autant plus lorsqu'on sait que 13 petits mois plus tard, l'ouragan factice devient une bien sombre réalité. Non, il ne s'appelle plus Pam, non. Non, son nom maintenant, c'est Katrina. Mercredi 24 août 2005, fin de matinée. C'est là que tout bascule, dans les Bahamas. Le temps, en quelques heures, change, provoquant d'énormes perturbations qui agitent les eaux. Très vite, l'inquiétude grandit chez toutes les chaînes météo. Pourquoi ? On distingue facilement sur les images satellites des mouvements tempétueux tourbillonnants. Alors rien d'anormal jusque-là, non. Non, ce qui pose un problème, en revanche, c'est qu'elles tournent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Cela ne peut signifier qu'une chose. Une tempête tropicale est en formation. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle s'annonce corsée. Ainsi est née Katrina aux Bahamas. Le nom des tempêtes est choisi par ordre alphabétique, via une liste de noms qui se succèdent. Les premiers à s'inquiéter de l'éventualité d'un ouragan sont les Floridiens. Le sud de l'État pourrait être touché dans les 36 heures. D'autres emboîtent le pas et préparent des plans d'urgence, juste au cas où. Pour le moment, la cata reste hypothétique. Ça n'a pas duré. De jour en jour, la situation se dégrade. Le 25 août, moins de 24 heures après sa formation, Katrina est dorénavant un ouragan de catégorie 1. Ses vents soufflent à un peu plus de 120 km par heure. Peu demande sa folle. Un ouragan comme ça n'est pas en mesure de provoquer des réactions en chaîne cataclysmiques. C'est d'autant plus vrai qu'à chaque fois qu'il touche terre, un ouragan perd en puissance, jusqu'à devenir absolument insignifiant. Les mers chaudes. Voilà ce qu'il faut à un tel phénomène pour gagner en vigueur et devenir un monstre. Il est 18h30, ce jeudi de fin août, lorsque l'ouragan pénètre en Floride. L'État a certainement sous-estimé son impact. Plusieurs centaines de millions de dollars de dégâts matériels sont à déplorer. Et pire, un bilan humain lourd. 14 morts. Les autres États sont prévenus. Ah, ça va secouer. Comme prévu, les vents de Katrina ressortent de la terre ferme moins redoutable. Mais bientôt, voilà qu'il atteint le golfe du Mexique et ses eaux chaudes. Subitement, l'ouragan atteint une puissance exponentielle. Le 26 août, voilà qu'il intègre la catégorie 2. Les ONG sur toute la côte ouest de la Floride, là où on programme l'arrivée du monstre, font ce qu'elles peuvent pour rassembler des stocks de denrées de première nécessité. La Nouvelle-Orléans, Louisiane, elle, fait la fête le long du delta du Mississippi. Il n'y a pas ville plus particulière, plus métissée aux États-Unis. Entourée par les eaux, elle est l'une des reines de la musique et de la bonne humeur. Les tempêtes, les ouragans, il y a des digues pour contrer la montée des eaux. Et elles sont parmi les plus réputées du monde. Pourtant, ce système de protection a beau être à la pointe, la Nouvelle-Orléans s'est endormie sur ses lauriers. Beaucoup d'entre elles ont besoin d'une réfection totale. Et pire, elles ont tendance à s'enfoncer et à perdre de leur efficacité. C'est donc l'insouciance qui règne en Louisiane. Plus pour longtemps. Vendredi 26 août au soir, la donne change radicalement. Katrina est dorénavant un ouragan de catégorie 3. Ses vents dépassent les 160 km par heure. La Floride est de nouveau en danger. Les autorités gouvernementales, elles, sont en alerte constante. C'est notamment le cas au centre des opérations d'urgence de l'État de Louisiane, à Baton Rouge. Forces de police, gouverneurs, toutes les communications passent par ces bureaux, on ne peut plus importants. Le 26 août, en fin de journée, la Louisiane décrète l'état d'urgence. Alors que les premières estimations laissent à penser que la Floride serait la première touchée, les experts se ravisent et annoncent que la Nouvelle-Orléans va se retrouver en première ligne. Combien de temps pour agir ? Moins de 72 heures. Le temps presse donc. Pourtant, personne dans la population ne semble s'affoler à ce stade. Bars et restaurants le vendredi soir sont encore bondés. Ça non plus, ça ne va pas durer. Le 27 août, Katrina se renforce davantage. Déjà en fond, la présence de l'ouragan se fait sentir. La météo est perturbée, devient violente. Les premières évacuations sont décrétées non loin de la Nouvelle-Orléans. Elles concernent les personnes qui vivent dans les zones les plus inondables. Le plan d'urgence prévu en pareil cas est appliqué à la lettre. Et les comtés les plus vulnérables doivent être vidés de leurs habitants avant même l'impact. Il reste 30 heures. La ville de la Nouvelle-Orléans est prévenue de ce qui arrive. Le maire de la ville, le démocrate Ray Najin, prend la parole pour la première fois à la télévision nationale. L'officiel annonce plusieurs mesures. Les quartiers les plus à risque de la ville doivent être évacués. Le stade de la ville sera ouvert en qualité de refuge. Mais le temps presse et la panique gagne les foyers. Avant la fin de la journée, les autoroutes de l'État sont saturées. Les forces de police ont beau mettre leur plan d'évacuation en action, rien n'y fait. La tension grimpe d'un cran encore. Samedi 27 août, l'échiquier se met en place. Pourtant, une dualité s'installe très vite. Certains quartiers de la ville continuent de regorger de monde. Si les touristes ne sont plus là, ou presque, les habitants restent chez eux, préparent un état de siège. Un cinquième de la population, soit plus ou moins 100 000 personnes, ne possède pas de moyens de locomotion. Partir ? Bien sûr. Et pour aller où ? Ils sont englués pour la plupart dans une des villes les plus pauvres du pays. Derrière la fête et les dorures, la Nouvelle-Orléans regroupe plus de 20% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. La vérité, c'est qu'ils ne peuvent pas partir. En prévision de ce qui vient, la gouverneure de Louisiane annonce que le président Bush déclare l'état d'urgence fédéral. Une mesure forte, rare. La FEMA s'organise et déploie ses équipes afin de pouvoir agir. Mais derrière cette efficacité apparente, apparaissent des failles qui vont conduire à la catastrophe. Jeff Smith et ses collègues, eux, ont anticipé les failles en simulant PAM. Les mesures prises ne sont pas suffisantes. La FEMA n'a plus le poids qu'elle pouvait avoir au siècle précédent. Ses budgets ont été réduits et son influence a chuté, elle aussi. Dans la nuit du 27 au 28 août, l'ouragan ne cesse de gagner en puissance. Les vannes des digues de la Nouvelle-Orléans sont fermées. Les prévisions sont catastrophiques. Les autorités s'apprêtent à faire passer Katrina en catégorie 4, voire en catégorie 5. Les zones côtières déjà sont menacées. Les eaux s'élèvent, prêtes à frapper. Mais dans le quartier français, la fête, comme tous les autres soirs de l'année, bat son plein. À faire l'autruche pourtant n'a jamais permis d'éviter l'horreur. Le dimanche 28 août 2005, au petit matin, Katrina devient un ouragan de catégorie 5.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est 4 heures du matin. Des dizaines de milliers d'habitants n'ont pas quitté leur logement. La police, malgré des patrouilles et des tentatives de les diriger vers le stade, servant de refuge, n'a pas obtenu de résultat. Certains, néanmoins, ont suivi les consignes. Ils sont 10 000 apeurés à se trouver dans les travées de l'enceinte. FEMA et Garde nationale sont sur le pied de guerre. La nuit a été calme. La quiétude avant la tempête. En s'approchant des côtes, Katrina a perdu de sa puissance. Catégorie 4, il n'en est pas moins redoutable. Les premiers contacts sont violents, laissant présager le pire. Et si c'était l'ouragan du siècle? À 5 heures, la Nouvelle-Orléans se retrouve en partie dans le noir. L'électricité est coupée nette. Les 10 000 réfugiés dans le stade sont au cœur de cette première vague d'attaque. L'enceinte tremble, produit sous l'effet du vent des bruits horribles. On craint le pire. Le courant, là aussi, est coupé. Ne subsistent bientôt plus que les lumières de sécurité. La peur gagne les rangs et elle n'est pas prête de disparaître. Le pire, Katrina n'est pas encore là. L'ouragan n'a envoyé sur cette fin de nuit que ses éclaireurs. C'est à 6h10 que le cœur du phénomène météo vient à toucher la terre, au sud de la Nouvelle-Orléans. La ville est à sa merci. Il n'y a plus rien à faire, sauf attendre et prier pour celles et ceux que ça réconforte. Au milieu de l'horreur, le stade souffre. L'ouragan est là. Des pans de son toit sont arrachés par le vent. L'eau coule au milieu de l'enceinte sportive. Mais c'est pas tout. Les ondes de tempête monstrueuses prennent d'assaut les digues. Des districts entiers de la ville se retrouvent submergés sans que rien ne puisse arrêter l'arrivée des eaux. Les systèmes de protection sont débordés. Il n'y a plus rien à faire. C'est l'est de la ville qui, en premier lieu, se retrouve totalement pris au piège. En quelques minutes, l'eau est montée assez haut pour engloutir les véhicules. 8 heures. La crue atteint dans certaines zones la hauteur de 3,50 m au-dessus au-dessus du niveau de la mer. Des maisons vont disparaître, des malheureux aussi. La ville est en train de sombrer. La situation en quelques heures devient critique. La FEMA, pourtant, a fait ce qu'elle a pu. Dans 11 lieux de stockage sont répartis plus d'un million de rations militaires et près de 3 millions de litres d'eau. Michael Brown à sa tête n'arrête pas. Il mandate plus de 1000 sauveteurs, compte sur la garde nationale, l'armée et les forces de police et de pompiers afin de venir en aide aux sinistrés. Pour autant, il n'a plus de levier pour agir avant que l'horreur ne soit passée. Au nord de la ville, le lac Pontchartrain, immense, gigantesque même, est d'ordinaire un compagnon calme et apprécié. Des digues l'encadrent afin de prévenir toute catastrophe. Son imposante stature n'a pas inquiété plus que cela les autorités. C'est une erreur. C'est une erreur fatale. En tout début de matinée, certains habitants de ce côté de la ville fuient leurs habitations, hurlant à qui veut bien entendre que les digues ont cédé. Mais est-ce vraiment le cas? Les images des reporters dans certains quartiers semblent rassurantes. La Nouvelle-Orléans aurait-elle passé